Je vais vous demander de vous tourner avec moi dans la lettre aux Hébreux. On va étudier ce matin le 8e chapitre. On va passer à des choses moins terre à terre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, que tu as préservée, car tu es un Dieu tout-puissant. Tu ne laisses pas des gens la modifier, l'écourter, la rallonger, Seigneur. Nous l'avons devant nos yeux, Seigneur. Merci parce que même s'il y a plusieurs traductions, plusieurs versions, nous savons que le sens est le même que celui que tu as voulu nous transmettre. Lorsqu'on étudie la transmission de la Bible, Seigneur, on s'aperçoit qu'il y a moins de 1% de variation entre les textes proches des originaux et ce que nous avons aujourd'hui, Seigneur. Donc ta parole, on peut lui donner notre confiance, on peut lui faire confiance. Et Seigneur, on voit lorsqu'on l'étudie qu'elle est harmonieuse, qu'elle est puissante, qu'elle parle à nos âmes, qu'elle parle à nos cœurs. Seigneur, sois béni pour cette parole. Aide-nous à la recevoir, à l'écouter, mais surtout à la mettre en pratique. Seigneur, qu'elle soit annoncée avec puissance partout dans notre ville ce matin, dans notre région, dans notre pays, dans tous les pays, Seigneur. Que ce soit elle qui dicte nos vies, qui nous fasse vivre, Seigneur, et pas l'inverse, Seigneur. On ne veut pas que nos vies s'accommodent et modifient ta parole pour qu'elle suive ce que nous voulons, Seigneur. Mais elle est ce que tu veux pour nous. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'amour et quelle est la meilleure chose que nous puissions étudier, comprendre, mettre en pratique. Sois béni, Seigneur, pour ce qu'elle nous apprend. Et Seigneur, aide-nous ce matin à mieux comprendre ta relation avec nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, on a eu la visite de deux amis chrétiens, anciens musulmans chrétiens, dimanche dernier. Si vous n'étiez pas là, ou si vous voulez écouter leur message, ils sont en ligne sur notre site de messages. Vous pouvez trouver ça en tapant calvarychapelle-nice.fr et vous retrouverez ces messages. Des messages puissants parce que ils nous montrent que des gens qui sont nés dans une culture où la religion a une forte place, notamment l'islam, la parole de Dieu, lorsqu'elle est découverte, peut transformer la vie. Et c'était un encouragement pour tous ceux qui étaient là, je crois, de voir combien Dieu peut se révéler en vérité et donner un zèle pour annoncer la vérité. Donc, on referme la parenthèse, un message très important donc la semaine dernière. Aujourd'hui aussi, j'ai la joie d'avoir à ouvrir la parole de Dieu dans un chapitre qui nous parle de la nouvelle alliance et combien elle est plus grande, que l'ancienne alliance. Une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est un pacte. C'est un testament. En grec, le mot qui est traduit par alliance, c'est le mot qui veut dire interposer. poser pour qu'il y ait une relation à travers ce texte entre deux parties. C'est le mot diathèque, comme on a une bibliothèque. Là, c'est le mot qui, dia, c'est traverser. C'est un mot qui veut dire qu'on met en relation le monde de la publicité. Veut nous inspirer confiance en certains produits et il établit des contrats. Le contrat de confiance de Darty. Vous savez que si vous trouvez moins cher ailleurs, non seulement ils vont vous rembourser la différence, mais ils vont vous offrir une bouteille de champagne. Il y en a qui ont déjà reçu une bouteille de champagne ? Personne ? Moi j'en ai déjà reçu deux. Le champagne n'est pas bon, mais au moins on peut se faire rembourser la différence. Et donc c'est un engagement, c'est quelque chose que l'on signe. Aujourd'hui on signe lorsqu'on s'engage à louer un appartement, à acheter une maison, une voiture, on signe un contrat. Et dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, testament ça veut dire alliance, ça veut dire pacte, contrat, il y avait l'ancien et le nouveau. Et aujourd'hui on va voir que le nouveau est meilleur que l'ancien. C'est pas parce qu'il y a du champagne en plus, comme dans le contrat de confiance d'Arty. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que c'était quelque chose de très sérieux aussi dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez peut-être que Dieu avait établi une alliance et il avait établi une alliance avec Abraham. Et à l'époque, lorsqu'on établissait un contrat, on ne signait pas, il n'y avait pas de photocopie de documents, mais c'était un engagement solennel. Et ce qui se passait, c'est que les deux parties, donc une personne et une autre, ou un groupe et une personne, ou des groupes ensemble, prenaient des animaux, les coupaient en deux. C'était un peu sanglant, mais ça montrait que c'était sérieux. Ils les disposaient sur le sol, et chacun à leur tour, ils passaient entre ces morceaux d'animaux séparés. Pour dire que s'ils ne respectaient pas leur engagement, le même sort leur serait réservé, ils seraient coupés en deux. Aujourd'hui, les enfants, quand ils jurent entre eux, ils disent « Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. » Ou alors, il y en a qui coupent, se coupent un peu, je ne sais pas si vous avez connu ça, pour dire qu'on s'engage vraiment, c'est une promesse, on se coupe et on touche le sang. Mais cette idée de sang, de quelque chose de sérieux, c'était quelque chose de très fort dans la culture de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour revenir à cette histoire d'Abraham, le mot... Donc, en hébreu, pour alliance, ou contrat, ou pacte, c'est le mot berit, qui vient du mot qui veut dire couper. Donc, c'était cette idée de couper les animaux en deux. Et dans la Genèse 17, ou la Genèse 15, on voit que Dieu fait cette alliance avec Abraham, mais il fait tomber un sommeil sur Abraham, donc c'est pas Abraham qui va, Abraham ne va pas pouvoir passer entre les morceaux d'animaux. Dieu va passer tout seul. Et quelque part, ça montre, c'est une préfiguration de cette nouvelle alliance dont nous allons parler plus loin. Je vous rappelle ces petites choses pour que vous alliez les ayez en tête. On va lire ensemble le chapitre 8. Et puis, je vais vous demander de vous lever maintenant pour la lecture de ce texte. C'est une façon de montrer notre respect et nous mettre à l'écoute. Je lis dans la version second 21, c'est la version des Bibles que vous pouvez emprunter pour la lecture aujourd'hui si vous avez besoin. Lisons ensemble. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus, lui aussi, ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple, et là il cite Jérémie 31, « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Souvent, on entend les critiques de la foi chrétienne dire « La Bible, on peut l'interpréter comme on veut. » Et toi, tu me dis qu'elle dit qu'on doit faire ça. Moi, je te dis qu'on peut faire autre chose. Il n'y a que du relativisme dans la Bible. C'est vrai que les hommes peuvent utiliser un texte sans contexte pour en faire un prétexte. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel verset ou partie d'un verset et en faire la base d'une fausse doctrine et même des fois la base d'une fausse religion, d'une secte. Mais le meilleur interprète de la Bible, c'est la Bible elle-même. Et là, nous avons un exemple de quelqu'un qui, l'auteur de cette lettre aux Hébreux, qui explique, qui revient sur le texte en disant le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est très important ça. Cherchez toujours d'abord dans la Bible les explications que vous cherchez. Allez voir s'il n'y a pas des passages parallèles, des passages qui traitent de la même chose. Bien souvent, vous n'aurez pas besoin d'aller demander à quiconque parce que la réponse vous sera donnée dans le texte même. Là, il veut dire le point capital, le point clé. C'est intéressant parce que c'est, dans le grec, c'est le point qui vient de la tête, le point en tête, le point chef. C'est le même mot, capital. Décapiter, c'est couper la tête. Capits, en latin, c'est la tête. Le point capital, il résume donc, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. C'est dans le chapitre 7 que Tonio a enseigné il y a 2 semaines, où nous avons vu que nous avions un grand prêtre. Les anciennes versions basées sur la traduction de Louis II parlent du grand sacrificateur. C'est pas du tout le mot biblique. Le mot biblique, c'est clairement le grand prêtre. Notre cher Louis II avait une telle aversion des catholiques. Il faisait tout pour qu'on évite de confondre la foi chrétienne réelle qu'il développait dans sa traduction de la Bible, en étant fidèle à la Bible, et avec l'évolution qui s'était passée dans l'Église catholique, il voulait à tout prix éviter le mot de prêtre. Mais en hébreu comme en grec, le mot, c'est grand prêtre. C'est pas souverain sacrificateur. Alors c'est vrai qu'une des attributions du prêtre, c'était d'offrir des sacrifices, mais c'était aussi de recevoir les oracles de Dieu, de les donner, de rappeler la parole au peuple. Tout ça pour dire que si vous avez une version qui dit souverain sacrificateur, c'est la même chose que quand les versions modernes de Louis II disent le grand prêtre. Et donc, ce qui est formidable, et ce qui résume tout ce que nous avons vu lorsque l'auteur de la lettre a parlé d'une prêtrise selon l'ordre de Melchizédek. Tonio a développé cela, je vous renvoie à l'étude du chapitre 7. Un des points essentiels, c'était que Melchizédek n'avait pas d'origine, il n'avait pas de fin. Il y avait une dimension d'éternité. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que nous avons ce grand prêtre. Nous l'avons hier, nous l'avons aujourd'hui, nous l'avons pour l'éternité. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Lorsqu'on lit les descriptions qui sont faites dans la parole du tabernacle, et puis plus tard du temple à Jérusalem, qui était une fabrication en dur du tabernacle, une réalisation en dur du tabernacle qui était une tente de camping, pratiquement. On voit tous les détails. On sait qu'il y avait d'abord les parvis, après on entrait dans. On voyait le lavoir, on voyait l'autel, d'abord l'autel où étaient brûlés les animaux en sacrifice à l'extérieur, et puis le lavoir pour compléter la purification des prêtres qui pouvaient alors entrer dans le saint lieu. Dans le saint lieu, c'était une pièce fermée éclairée par le chandelier à 7 branches sur la gauche, au fond à gauche, devant au fond à, Devant, il y avait l'autel des parfums. Au fond, à droite, il y avait la table des pains de proposition. Et on pouvait entrer là. Et puis, une fois l'an, après avoir offert un sacrifice pour lui-même et un sacrifice pour le peuple, le grand prêtre, justement, pouvait entrer dans le Saint des Saints, en tremblant, parce que là résidait la présence divine sous la forme de la lumière de Dieu qui recouvrait les anges qui se trouvaient en couverture de l'Arche de l'Alliance. Et quand on lit bien la description, c'est intéressant, c'est donné avec de forte précision, des mesures très précises, basées sur la coudée. La coudée, c'était, si on n'a pas trop changé, c'est à peu près 45 cm, mais on peut reproduire de façon très précise ce qui était dans le tabernacle. Mais lorsqu'on regarde bien, lorsqu'on cherche bien, il y a un meuble qu'on ne trouve jamais dans les descriptions qui sont faites. Il n'y avait pas de chaise dans le tabernacle. Et là, on voit que le grand prêtre, lui, il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Dieu s'est assis. Pourquoi notre grand prêtre s'est assis ? Parce que son travail était terminé. Le travail des prêtres n'était jamais terminé. Il y avait toujours un autre sacrifice à offrir, parce que les sacrifices ne pouvaient couvrir les péchés que momentanément. Il fallait qu'ils soient renouvelés sans cesse et sans cesse. Là, le Seigneur Jésus-Christ, notre grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, il a fait son œuvre sur la terre. Et il s'est assis à la droite. Il s'est assis. Il y a un endroit où il est question de. On le voit se lever. C'est intéressant, c'est dans le livre des Actes, lorsque le diacre Étienne est lapidé et qu'il arrive devant Dieu, il voit Jésus qui est levé. Comme si c'était une façon pour notre Seigneur de saluer le martyr. Ce premier martyr de la foi, mais sinon le travail de Dieu est fini, de Jésus est fini. Il est dit qu'il est assis à la droite du trône. Pour nous, avec notre mentalité basée un peu sur la Bible, on sait que c'était une place d'honneur que d'être assis à la droite de quelqu'un. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'époque, il y avait ce tribunal juif que les Romains laissaient agir, le Sanhédrin, et qui avait un juge qui se trouvait assisté par deux scribes. Il y en avait un à sa droite et un à sa droite aussi, selon que c'est vous qui me regardez ou pas, peu importe. À sa droite, il y avait un scribe. Plutôt à sa gauche, le scribe était là pour noter les condamnations. Le scribe de droite, il avait un travail plus sympa, il était là pour inscrire les pardons. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin, Jésus-Christ est assis à la droite du juge, qui est Dieu le Père, prêt à signer les pardons. Une petite parenthèse, mais qui montre la richesse du texte biblique et comment on peut fouiller et se conforter dans les choses qui sont clairement révélées. Il nous dit aussi que c'était lorsque nous cherchons des conseils auprès des hommes, nous avons le conseil d'êtres humains. Et il est bon d'apprendre à recevoir des conseils directement de Jésus-Christ. Ne vous contentez pas d'avoir une relation avec lui par un intermédiaire, que ce soit votre pasteur favori, votre missionnaire préféré, votre commentateur à la radio ou à la télévision qui vous donne le plus d'émotions. Apprenez à aller directement à Jésus-Christ, votre grand prêtre, parce qu'il est votre grand prêtre, il est là. Il est le roi des rois, il a un pouvoir absolu, et de plus, il intercède pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps de prier avec ce changement d'heure, mais Jésus a prié pour vous. Il a intercédé, il s'est mis entre vous et le Père pour demander qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il dirige votre vie, que s'il y a des choses qui vous arrivent qui ne sont pas nécessairement les choses que vous souhaitiez, qu'elles puissent être rachetées pour votre bien, pour ses desseins. Il est question qu'il a d'un sanctuaire dans le véritable tabernacle. Véritable, c'est pas dans le sens de un tabernacle qui serait faux, mais dans le sens d'un tabernacle qui ne serait pas réel, qui serait comme une image ou une ombre. Vous vous souvenez que Dieu a donné des instructions à Moïse pour la construction justement du tabernacle. Dans Exode 25, 40, il est dit que Dieu a dit à Moïse, « Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Ce que représentait le tabernacle et le temple, c'était en fait une ombre des choses à venir. Aujourd'hui, on projette des images. On a plein d'images qui nous entourent sur nos écrans, LED, etc., OLED, que ce soit les télévisions, les terminaux d'ordinateur, nos téléphones. Et on en arrive à confondre un peu l'image et la réalité. Imaginez que Nancy garde une image de moi, une photo de moi dans son portefeuille, et qu'elle la sorte de temps en temps en disant « Oh, je t'aime, Pierre. » Mais qu'elle me délaisse complètement. Je suis à côté, mais elle ne s'occupe pas de moi, elle ne me manifeste pas personnellement, directement de l'affection. Elle est toute entière absorbée par cette image. Oh, elle est belle, cette image, cette photo. Ce serait bien triste, surtout pour moi. Il y aurait des avantages sans doute pour Nancy, l'image serait toujours souriante. Elle ne dirait jamais un mot plus haut que l'autre. Mais ce serait vraiment, vraiment triste. Et pourtant, c'est ce que les hommes font avec la religion. Ils donnent plus d'importance à l'ombre de la réalité divine qu'à Dieu lui-même. On s'attache à des rituels, on s'attache à des traditions et on en oublie la raison. On va à l'église, on a des rituels, même si on dit qu'on n'en a pas, on en a. On dit qu'on n'a pas de liturgie dans les églises évangéliques, mais on en a une. On commence par des chants, puis après on parle de ça, la parole, avec des prières entre les deux, des annonces. Mais j'espère que vous êtes venus aujourd'hui non pas pour suivre, pour voir une image, avec des images projetées et des paroles répétées, des chants, mais vous êtes venus pour rencontrer Dieu lui-même. Vos cœurs ne s'arrêtent pas à l'image. Et c'était ce qui se passait dans l'ancienne alliance et ce qui nous guette tous. La religion, c'est de s'attacher plus à ce qui représente Dieu qu'à Dieu lui-même. Le tabernacle qui était sur terre, aussi beau pouvait-il être, aussi impressionnant pouvait-il être, il n'avait de valeur que parce qu'il représentait ce qui va nous apparaître dans les cieux. Souvent on dit, on n'a pas de renseignements sur ce qui se passe au ciel. En fait, Dieu nous a donné un modèle, comme un modèle réduit. Si vous ne pouvez pas vous payer une Lamborghini, vous pouvez vous acheter, c'est moins cher, un petit modèle en 3D, une petite voiture en plastique qui représente la Lamborghini. Et vous pouvez l'admirer, vous dire « Ah, ça serait bien d'en avoir une », etc. Mais ça ne remplace pas, ce n'est pas la même chose. Le tabernacle, le temple avec ses différents compartiments, c'était simplement une représentation des choses à venir. Il est intéressant de savoir que il y a même dans les trois parties dont on a parlé, le parvis, le saint lieu et le saint des saints, une analogie entre comment nous vivons. Nous vivons dans un monde physique. Nous avons un corps qui peut s'identifier avec ce qui se passait dans le parvis. Puis nous avons des émotions, nous avons un intellect, c'est ce qui se passe dans le saint lieu. Mais la réalité, ça se passe dans notre esprit qu'on peut comparer au saint des saints. Donc il y a des très belles analogies. Mais si on en reste juste à la représentation, au modèle, on passe à côté de la substance, de la réalité des choses à venir. Dieu veut et il voulait que nous fassions l'expérience de sa présence. On a chanté tout à l'heure « J'aime ta grâce, j'aime ta puissance ». Mais ce qui me comble, c'est ta présence. Dans l'Exode 25:8, il disait « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Il est dit dans Éphésiens 1:20 que le Père a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6 nous dit « Le Père nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » La réalité des choses, lorsque nous sommes sauvés, même si nous ne le voyons pas, si nous avons du mal à l'imaginer, c'est que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ, à côté du Père. C'est... Il continue en disant que le véritable tabernacle, ce n'est pas des êtres humains qui les construisent, c'est Dieu lui-même. Verset 3, « Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus lui aussi ait quelque chose à présenter. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre que Jésus, qui était le grand prêtre, n'ait jamais fait l'office de grand prêtre dans le temple à Jérusalem? Mais il ne pouvait pas vraiment, parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi, il n'était pas un descendant d'Aaron. Lui, il était un prêtre dans l'ordre de Melchizédek. Ce personnage mystérieux, roi de Salem, roi de Jérusalem et roi de justice, qui n'avait pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et il n'était pas là pour faire un ministère limité dans un modèle réduit. Lui, en fait, il était destiné à servir Dieu, à présenter un ministère, un service dans le vrai sanctuaire. Et pour ce faire, parce que c'est vrai qu'un grand prêtre doit offrir des offrandes et des sacrifices, et là, l'auteur dit, il faut bien que Jésus ait quelque chose à présenter. Je vous rappelle le contexte. Les Juifs de l'époque qui étaient devenus chrétiens, qui avaient commencé à suivre Christ, revenaient en arrière, étaient tentés de revenir au temple qui était toujours là. C'est seulement dans quelques années après l'écriture de cette lettre. On pense que ça a été écrit en l'an 64 ou 66. Donc, 4 à 6 ans après, le temple allait être détruit par les armées de Titus, un général fils de Vespasien, l'empereur de l'époque, raser, complètement anéantir cette religion en détruisant le temple. Et il disait, vous avez raison, il a pas servi dans le temple, Jésus, mais c'est parce que, en fait, lui, il allait servir dans le véritable tabernacle, dans la substance et non pas dans le modèle réduit. Et c'est vrai qu'un grand prêtre doit offrir des offrandes. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus s'est offert lui-même en sacrifice. Donc il est qualifié. Et il dit, certes, s'il était sur terre, il ne serait même pas désigné prêtre parce qu'il ne présentait pas, il n'était pas de la tribu de la bonne généalogie et il ne pouvait pas présenter des offrandes conformément à la loi. On a parlé de l'alliance avec Abraham. Il y a aussi l'alliance avec Moïse, de cette ancienne alliance qui était la loi caractérisée par la loi donnée sur le mont Sinaï. Verset 5, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Regarde, Moïse en effet avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais il nous dit maintenant, en fait, le service de Jésus, il est bien supérieur au service des grands prêtres qui pouvaient servir à Jérusalem dans le temple ou avant dans le tabernacle. Parce qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Le problème avec l'ancienne alliance, même si, comme je l'ai rappelé au début, Abraham avait été endormi et que c'est Dieu qui avait signé un peu tout seul l'alliance, avec Moïse, l'alliance, elle était conditionnelle. C'était vraiment un contrat, comme on en a aujourd'hui. Si je vous donne cette voiture, vous engagez à me payer. Si vous ne me payez pas, j'ai le droit de reprendre la voiture. Moïse, dans l'Exode 19, il est dit, « Maintenant, si vous écoutez, c'est Dieu qui parle, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. » Et puis, tout de suite après, chapitre 20, les 10 commandements. Et le peuple, vous souvenez, s'ils avaient répondu, pas de problème, on va obéir à la lettre. Tout le peuple, unanime, répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ce n'est pas Dieu qui a brisé cette alliance, c'est les Juifs qui l'ont brisée, qui ne l'ont pas respectée. La loi, aujourd'hui, certains disent, mais s'il y a une nouvelle alliance, on n'a plus à respecter la loi. On peut faire ce qu'on veut, Dieu nous pardonne, mais c'est mal comprendre la parole. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, nous dit le psaume 19:7. Il n'y avait pas de problème avec la loi. La loi, elle est pure, elle est belle. Nous devons la respecter. Nous devons faire tous nos efforts. Mais en fait, et Tonio l'avait indiqué, la loi nous a été donnée non pas pour nous permettre de mériter l'approbation divine, elle nous a été donnée pour nous montrer qu'on n'y arrive pas. La loi est un enseignant, un guide qui nous dit tout ce qu'il faut faire, sachant que nous n'allons pas y arriver par nos propres forces. Certains ont dit que la loi, c'était comme un lasso qui nous force à venir à Jésus. Si vous avez déjà vu des anciennes méthodes de pêche primitives, on construisait, et ça existe encore aujourd'hui, on construisait des nasses. C'est-à-dire qu'il y avait un récipient, un panier, une bouteille en verre ou un bidon, quelque chose qui faisait que les poissons pouvaient rentrer par une grande entrée, mais qu'ils se retrouvaient coincés à la sortie et que les pêcheurs pouvaient les attraper là. La loi, c'est comme une grande nasse qui fait qu'on pense qu'on peut rentrer facilement, mais on se retrouve coincé à la fin, on réalise qu'on peut pas, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut que le pêcheur, Jésus, vienne nous aider. La loi, elle nous est donnée pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. Vous dites, mais j'ai jamais tué, j'ai jamais violé, j'ai jamais commis d'adultère avec une autre femme. Jésus nous a dit, attendez, vous pensez que vous n'avez jamais tué, très bien, mais moi je vous dis que quand vous souhaitez du mal à un ennemi, que vous proférez des paroles insultantes, c'est comme si vous aviez tué cette personne. Certes, vous n'avez peut-être jamais commis l'adultère physiquement avec une personne, mais peut-être que vous avez regardé une femme en disant « Tiens, elle est séduisante. Vous avez commis l'adultère dans votre cœur. » Tous nous sommes condamnés par la loi. La loi est parfaite, mais elle nous condamne. Et elle nous amène à Christ parce qu'on y réalise « J'y arrive pas, je ne peux pas le faire tout seul. » Et donc Jésus est le médiateur, celui qui met en pratique. Celui qui est, il nous a dit qu'il est, il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est l'homme Jésus. On a vu au chapitre 4 qu'il était un méga grand prêtre. Il est notre intermédiaire. Job se plaignait en disant que si seulement il pouvait avoir un arbitre entre lui et Dieu, ceci dans Job 9:33, il avait ce soupir du cœur, si seulement je pouvais avoir quelqu'un qui puisse mettre sa main sur mon épaule et mettre sa main sur l'épaule de Dieu et nous réconcilier. C'est Jésus qui fait ça, c'est le médiateur. Là, il est le médiateur, l'instrument par qui vient une meilleure alliance. C'est une nouvelle alliance. Elle s'adresse d'abord au peuple juif et à travers le peuple juif, elle s'adresse à tous les chrétiens, tous ceux qui vont mettre leur foi en Jésus-Christ. Le verset 7 nous dit que la première alliance n'était pas irréprochable. Parce que si quelqu'un, plutôt si quelque chose est parfait, on ne change pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a toujours des nouveaux produits. Vous avez l'ordinateur dernier cri, je peux vous garantir que dans 5 ans, vous ne serez plus capable de l'utiliser pour faire tourner les logiciels qui sont proposés à ce moment-là. C'est un moteur de l'économie, la nouveauté, meilleur produit. La première alliance, Jésus l'avait, plutôt Dieu l'avait prophétisé par Jérémie 31, 30, Jérémie 31, et le reste du chapitre, les versets 8 à 12, c'est une citation de Jérémie 31, versets 31 à 34, c'est un merveilleux message d'espoir. La première alliance, elle était fondée sur l'obéissance à la loi. Ce message de cette nouvelle alliance et de l'incapacité de l'homme à obéir à la loi et d'avoir besoin d'une nouvelle alliance, il en est question largement et en détail dans Romains 8. Je vais lire juste ces quelques versets. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. » Là, ce qui est dit, c'est que la loi, elle était forte, mais ce qui était faible, c'était moi, c'était la nature humaine. Imaginez que vous fassiez cuire un morceau de bœuf dans un bouillon et que vous le fassiez trop longtemps, et après vous prenez une fourchette et vous essayez de soulever ce morceau de viande, et la viande est tellement cuite qu'elle, vous n'arrivez pas à la soulever. Elle tombe en lambeaux. C'est la faiblesse de la chair. La loi, la fourchette est toujours, elle est costaud, elle est bonne, elle marche parfaitement, mais le problème, c'est pas la fourchette, c'est pas la loi, c'est la chair. C'est la viande trop cuite, c'est la viande avariée, c'est ma vieille nature. Elle est incapable. Mais il nous dit, maintenant j'ai remplacé ça et c'est moi qui signe l'alliance. Jésus fait une nouvelle alliance. La première alliance a été instituée donc sur le mont Moria avec Abraham. Celle-là, elle est établie, plutôt elle était établie avec Moïse sur le mont Sinaï. Cette nouvelle alliance, Jésus l'a signée à la croix sur le mont Moria. Les hommes étaient incapables de respecter les conditions de la loi. Et lorsque Dieu nous disait « Si vous obéissez, je vous bénis, si vous n'obéissez pas, je ne vous bénis plus », là, nous avons des meilleures promesses parce qu'elles ne sont plus conditionnelles. Cette alliance, elle dépend entièrement de Dieu. La seule condition que je dois respecter, c'est de connaître et de mettre ma foi en Jésus-Christ. Et ça, je peux faire. Respecter tous les commandements de la loi, non seulement tous, mais sans arrêt, toute ma vie, ça, je ne peux pas. Et en fait, la loi, elle m'a été donnée pour m'amener à Jésus-Christ et dire, qui va me libérer de la loi du péché et de la mort ? Et c'est Jésus-Christ qui est là. Quand je mets ma foi en lui, il prend les rênes de ma vie Et c'est lui qui va venir m'aider à vivre pour lui. La première alliance, elle instituait une relation basée sur la loi. La nouvelle alliance, elle institue une relation basée sur l'amour. On peut voir dans le reste du passage, l'ancienne alliance, c'était une relation basée sur la loi. La nouvelle alliance, c'est une relation basée sur l'amour. L'ancienne alliance n'arrive pas à faire du bien avec des hommes pécheurs. Comme on disait, la fourchette dans la viande trop cuite n'arrive pas. La nouvelle alliance, elle reconnaît ma nature de pécheur et maintenant les exigences de la loi sont remplies par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je n'ai plus à persévérer parce qu'on n'y arrive pas. Verset 9, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et donc Dieu ne s'était plus soucié d'eux, c'était une relation légale, maintenant c'est une relation d'amour. Je n'ai plus à être parfait, mais à croire à cet amour. Verset 10. Au lieu d'être quelque chose d'extérieur, un joug extérieur qui me force à essayer d'obéir à des choses pour avoir l'approbation divine, maintenant Dieu vient écrire sa loi dans mon cœur. Je peux prier, je peux suivre mon cœur. Je n'ai pas besoin de religion. Je peux me recueillir, je peux chercher, savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Ma motivation maintenant, elle est interne, elle est dans mon cœur. Verset 10, avant c'était une relation d'esclave. Maintenant c'est une relation, une identité de père à fils. Avant, j'avais une connaissance extérieure, livresque, académique de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, le Saint-Esprit est comme un tuteur qui habite en mon cœur, un tuteur à domicile. Je peux jouir de l'intimité avec Dieu. Le verset 12 nous parle d'une condamnation. Maintenant, il n'y a plus de condamnation, il n'y a même plus de souvenir des péchés. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises. Je crois que je n'ai pas tous les versets, mais on a vu dans les psaumes, dans les petits prophètes, cette idée que Dieu jette nos péchés au fond de la mer, qu'il les met aussi loin de lui que l'Est et de l'Ouest. Et à maintes et maintes reprises, il nous déclare, et là encore, qu'il ne se souvient même plus de nos péchés. La première alliance est obsolète. Et à l'époque, elle était sur le point de disparaître, c'est le dernier mot de ce chapitre. 6 ans plus tard, Jérusalem allait être détruite avec le temple. Les Juifs ne pouvaient même plus, à partir de ce moment-là, essayer de respecter l'ancienne alliance. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de sacrifice possible. Et on peut bénir Dieu de ce qu'il a institué, cette nouvelle alliance qui est à ma portée parce qu'elle ne dépend plus de moi. Pour terminer, j'aimerais citer un commentateur qui compare la loi et l'amour. C'est le docteur Barnhouse, un commentateur du siècle dernier. Et il imagine cette histoire qui nous explique un peu ce dont nous venons de parler. Imaginez qu'un homme perde brutalement sa femme et se retrouve tout seul avec 2 jeunes enfants en bas âge. Alors il décide d'embaucher une aide ménagère pour l'aider et il lui donne une liste d'instructions. sur les repas. Comment il faut servir les repas, en commençant par l'endroit où il y a les assiettes. Non, je plaisante. Et il lui donne des instructions pour comment elle doit faire, pour qu'est-ce qu'elle doit donner aux enfants, comment elle doit préparer les repas, comment habiller les enfants, comment prendre soin d'eux, comment faire le ménage. Et puis de temps à autre, surtout au début, il va inspecter la maison pour voir si la maison est en ordre, si elle obéit vraiment à ses instructions. Il va surveiller la façon dont elle dirige les enfants et il va la corriger si elle n'obéit pas à ses lois, entre guillemets. S'il y a besoin, il va la reprendre comme un maître le fait avec un serviteur, avec une servante. Mais voilà qu'après, au bout d'un an, il apprécie cette personne et il en tombe amoureux. Il épouse l'aide ménagère. C'est drôle parce que c'est pas quelque chose de si rare. J'ai en tête deux exemples de personnes que je connais, ça s'est passé comme ça. Ce qui est formidable, c'est qu'une fois qu'il a épousé l'aide ménagère, leur relation va changer du tout au tout. Il n'est plus à la suivre dans la maison pour surveiller son travail. Il ne lui dit plus ce qu'il faut préparer comme repas. Alors on peut se dire, oui, maintenant elle est au courant. Mais ça va plus loin. Il est entré dans une relation d'amour, pas une relation de loi. Et elle est heureuse. Elle se plaît à faire sa volonté. Elle cherche à connaître ses désirs, à les anticiper pour le satisfaire. Elle lui demande qu'est-ce qu'il voudrait manger pour le dîner. Elle lui prépare les plats qu'il a évoqués avec amour. Elle n'est plus sous la loi, elle est sous la grâce de l'amour. La loi qui, des fois, nous paraît, et qui en fait est dure et belle, mais elle est impossible à respecter. Nous pouvons la respecter si nous sommes tombés amoureux de Dieu, de Jésus, s'il habite par son Esprit Saint en nous. Obéir la loi, ce n'est plus un fardeau. Parce que les désirs de mon cœur ont changé. Je suis passé d'une relation de loi à une relation d'amour. Et il est vital que nous comprenions tous qu'une relation avec Dieu, une vraie vie de sainteté, ça ne vient pas d'une obéissance lourde et pénible à la loi, mais ça vient d'une relation de joie, d'amour pour Christ. Ça, en une anecdote, c'est ce que devrait être la nouvelle alliance pour nous. Amen. Pour noter, si vous voulez savoir si Dieu oublie vos péchés, psaume 103, 12. Ça, c'est la question de l'Orient et de l'Occident. Michée 7, 19, c'est les péchés jetés au fond de la mer. Et puis il y a Isaïe 43, 25, Jérémie 31, 34. Jérémie 50, 20, Dieu oublie nos péchés dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle relation d'amour avec lui. Alléluia! Alléluia! Prions. Seigneur, devant cette merveille qu'est cette nouvelle alliance, tu vois combien il est difficile de dire ce qu'il faudrait dire, Seigneur. Je me sens impuissant ou seulement faible pour résumer toute la richesse de cette nouvelle alliance. Aide-nous à apprécier ta loi qui est parfaite, mais à nous réjouir parce que tu ne nous demandes pas de lui obéir pour nous aimer. Tu nous aimes et nous pouvons lui obéir, Seigneur. Que pour chacun d'entre nous, ce soit peut-être un tournant que de réaliser ce que tu demandes, Seigneur. Que ce contrat, ce nouveau contrat, ce nouveau testament, ce nouveau pacte, ça va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Seigneur, touche nos cœurs pour que nous puissions nous reposer dans ton amour, dans une relation. Aide-nous à abandonner toute forme de religion, Seigneur, qui base notre acceptation sur notre suivi d'un code strict, étouffant et mesquin, Seigneur. Merci pour la beauté de ta loi, Seigneur, mais surtout merci parce que tu viens nous aider à lui obéir, Seigneur. Aide-nous à comprendre, à méditer ces choses. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Amen.